L'assassinat du courrier de Lyon. Chapitre 9. Dubosc est repris. Un procès sensationnel. Un président impartial. Un accusé récalcitrant. Des témoins obstinés. Une perruque blonde. Un étrange verdict. 2 ans s'écoulèrent pendant lesquels Dubosc et Claudine Barrière, qui se cachaient à Paris, échappèrent aux recherches dont ils étaient l'objet. Il ne faudrait pas croire un seul instant que ni Daubenton, ni son collaborateur, le citoyen Emery, avaient renoncé à l'œuvre de réhabilitation qu'ils avaient entreprise. Dès le lendemain de l'évasion de Dubosc, Emery avait chargé, à ses frais, un agent particulier de rechercher ce bandit, preuve vivante de l'innocence de Lesurc. Mais Dubosc n'était point de ces gibiers qui se laissent facilement attraper. Il avait 1001 tours dans son sac, et il avait su les employer à merveille pour dépister le limier lancé à sa poursuite, allant jusqu'à faire insérer dans les journaux des notes indiquant qu'on l'avait vu tantôt à Roanne, tantôt à Montluçon, tantôt à Saint-Étienne, et enfin à Lyon. Ni Daubenton, ni M. Demery, ni leur agent ne se laissèrent décourager. Bien leur en prit, car le 13 Fructidor, an 8, c'est-à-dire le 21 août 1800, l'agent de police privé découvrait à Paris le domicile de la fille Claudine Barrière, où une perquisition faisait découvrir les papiers de Dubosc, 4 passeports, une carte de sûreté, une malle vide, dont les panneaux étaient doubles et formaient une cachette dans laquelle on trouvait 15 clés neuves, 25 rossignols et 4 autres passeports. La fille Barrière, interrogée à la préfecture de police, refusa de faire connaître l'endroit où se dissimulait Dubosc. Dès le lendemain, l'agent de Daubenton et d'Emery découvrait cette salle, rue Hauteville 2, où l'on trouva tout un arsenal de fausses clés, d'armes et des perruques de toutes les couleurs. Mais de Dubosc, point. L'agent privé, qui, décidément, était un policier de premier ordre, retrouvait promptement la trace de Dubosc qu'il faisait arrêter par les hommes de garde du poste du Petit Carreau. Et le 17 Fructidor, il était ramené pieds et poings liés à Versailles, cette fois sous une escorte imposante. La procédure fut aussitôt reprise, et le 28 Brumaire, en 9, c'est-à-dire le 19 novembre 1800, le misérable comparaissait devant le tribunal criminel de Versailles. La salle où les débats allaient se dérouler était remplie d'un public élégant, composé de femmes qui, malgré la rigueur de la saison, portaient des robes très claires en tissu léger et fort décolleté. Les hommes, presque tous, se tenaient debout. C'étaient des acquéreurs de biens nationaux, des fournisseurs, des fonctionnaires, des banquiers, bref, tous les snobs de l'époque auxquels se mêlaient quelques bourgeois de Paris, quelques commerçants de Versailles, attirés là par une malsaine curiosité. Les débats allaient être présidés par un magistrat de talent et de valeur, le citoyen Chollet. Le commissaire du gouvernement n'était autre que Brillat Savarin, le spirituel et fin gourmet qui devait donner, quelque temps après, ce chef-d'œuvre d'esprit et d'art culinaire qui s'appelle la physiologie du goût. Un peu à l'écart, une femme et 2 fillettes en grand deuil attiraient l'attention du public. C'était Madame Lesurc, dont le regard, fixé dans le vague, était celui d'une malheureuse qui a perdu la raison. De temps en temps, ces 2 fillettes dirigeaient vers elle leurs yeux tout voilés de larmes. Près d'elle, le citoyen Daubenton, debout et attendant gravement l'heure de la réparation si tardive de la terrible erreur qu'il ne devait jamais se pardonner d'avoir provoquée. Derrière eux, vêtue de noir, la veuve du courrier de Lyon, la citoyenne ex-Coffon et son fils, ne semblaient point consolés du drame effroyable qui les avait frappés en plein cœur. Au banc des accusés, Dubosc et la fille Barrière, une femme de 27 ans, assez laide, au visage long et effilé, à la figure blême marquée de petites véroles, le front trop haut, aux yeux roux, au nez gros, et dont les cheveux naturellement bruns disparaissaient sous une perruque blonde. L'accusation avait cité 84 témoins. Cette fois, on sentait que les magistrats étaient bien décidés à faire toute la lumière. L'audience du matin fut entièrement remplie par les formalités, c'est-à-dire la lecture de l'acte d'accusation, l'appel des témoins et l'interrogatoire des deux accusés. Dubosc continua à nier mordicus. D'avance, on sentait qu'il allait se défendre avec une énergie opiniâtre et qu'il ne serait pas facile de venir à bout de lui. L'audience de l'après-midi fut consacrée à l'audition des témoins. Elle allait causer une profonde déception aux partisans de l'innocence de Lesurc. En effet, la fille grosse tête et la fille Santon, qui, toutes deux, avaient été la cause de l'arrestation de Guénot et de Lesurc, s'en vinrent affirmer qu'elles ne reconnaissaient pas Dubosc. Comme le président insistait, Dubosc s'écriait avec véhémence. « Les témoins ont un sondage à savoir ce qu'ils disent. Point n'est besoin de les persuader à me reconnaître. Nous ne cherchons que la vérité, » scandait le président Chollet. Mais Dubosc répliquait. « Ouais, celle qui est aujourd'hui contre moi, en faveur de ce Lesurc, comme autrefois on recherchait tout ce qui pouvait se retourner contre lui. » Le témoin suivant, la femme Châtelain, déclara nettement qu'elle ne reconnaissait pas Dubosc. La femme Alfroy déposa. « Je ne reconnais pas positivement ce particulier. Cependant, je remarque, à force de l'envisager, qu'il a de la ressemblance avec Lesurc. Mais il est moins grand de taille, moins blanc de peau et moins blond de cheveux que Lesurc. Et je ne puis affirmer que ce particulier, ici présent, ait été au nombre des 4 cavaliers. » Le témoin Gilet déclara qu'il ne reconnaissait pas Dubosc pour être un des 4 cavaliers, bien qu'il fût blond comme l'était Lesurc. Mais il affirma que celui-ci était moins blond et moins grand que lui. Le citoyen et la citoyenne Champeau s'en vinrent affirmer l'un après l'autre qu'ils ne reconnaissaient pas du tout le particulier ici présent sous le nom de Dubosc pour être un des cavaliers qui avait passé et mangé chez eux le 8 Floréal en 4 dans l'après-midi. Le citoyen Champeau ajouta même « Par contre, j'ai très bien reconnu Lesurc lorsqu'il m'a été présenté au cours de l'enquête pour être l'individu à qui j'ai fourni le fil blanc pour rattacher son éperon argenté. Mais l'accusé que voici, bien qu'il soit blond, n'est pas aussi blond, ni aussi blanc, ni aussi grand que Lesurc. C'est tout ce que je puis dire. » Enfin, le sieur Perrault, propriétaire à Saint-Germain-en-Laye, appelé à la barre, prononça les paroles suivantes. « M'étant arrêté à Montgeron pour me restaurer à l'auberge du citoyen Évard, j'ai vu 3 personnes qui y avaient également dîné. Ces 3 personnes m'ayant été présentées depuis, j'ai cru les reconnaître pour celles qui m'ont été désignées sous le nom de Couriol, de Guénot et de Lesurc. Je crois ne m'être pas trompé en reconnaissant Lesurc. Par contre, je ne reconnais point le particulier ici présent, connu sous le nom de Dubosc, pour un des 3 cavaliers qui ont dîné à la dite auberge. Bien qu'il soit à peu près de la même taille que Lesurc, le châtain tirant sur le blond du sieur Dubosc est différent du blond véritable, couleur des cheveux de l'autre, et les traits du visage sont tout différents de ceux de Lesurc. « Vos souvenirs sont bien précis ?» interrogeait le citoyen Chollet. « Oui, citoyen président. » L'audience est levée. Les assistants se retirèrent en échangeant d'ardents commentaires. Les amis de Lesurc étaient consternés. Quant à Dubosc, il exultait. « C'était bien la peine, » disait-il à ses gardiens, de me retenir si longtemps sous les verrous, de me forcer à m'évader et de me faire casser une jambe. J'en ai assez d'être le jouet des amis de l'Usurc et de voir ces gens s'offrir ma tête parce qu'elle ressemble un peu trop à celle de ce particulier. Mais tout cela se paiera, plus cher qu'au marché. Aussi, le lendemain matin, dès les débuts de l'audience, se croyant désormais à l'abri de toute condamnation, se montra-t-il d'une arrogance extrême. Comme le président lui demandait s'il connaissait David Bernard et s'il ne lui avait pas loué des chevaux, il s'écria « On tient absolument à me mêler à toute cette bande !» Et pour sauver le Zurk, qui semble depuis sa mort avoir des amis plus actifs et plus dévoués que durant sa vie, on veut à tout prix me faire reconnaître par tous les complices directs ou indirects de cette affaire. Seul contre tous, que voulez-vous que je dise? Quand on pense que le citoyen d'Aubenton, celui-là même qui a arrêté le Zurk et l'a fait guillotiner, passe maintenant sa vie à le faire réhabiliter, il faut que la famille le Zurk soit bougrement riche. Il était impossible d'accuser plus nettement de vénalité non seulement tous ceux qui l'avaient dénoncé et reconnu, mais encore ce magistrat intègre entre tous qui avait consacré tout son temps et son argent à réparer son erreur. Justement indigné, le président Chollet rétorquait. « Vous semblez avoir aujourd'hui, Dubosc, une assurance, je devrais dire une audace, que jusqu'ici vous n'avez point manifesté aussi violemment. Veuillez demeurer plus calme et ne point donner le change par vos insinuations en ternissant à plaisir la réputation des honnêtes gens. La vôtre, il est vrai, n'a rien à risquer. » Avec un aplomb inouï, Dubosc s'écriait. « Ma réputation peut-être bien, mais je risque ma tête, et c'est quelque chose, quoi que vous en pensiez. » Si la justice commence à croire qu'elle s'est trompée avec le Zurk, ce n'est pas une raison pour qu'elle se trompe avec moi. Eh bien non, je ne connais pas Bernard. Je ne peux pourtant pas le reconnaître pour faire ce plaisir à la veuve le Zurk et à ce Daubenton. » Coupant court à ce dialogue, dans lequel Dubosc semblait si désireux d'avoir le dernier mot, le président Chollet ordonnait « Faites entrer le témoin Chéron. » Le témoin Chéron n'était autre que le domestique de David Bernard. Dubosc allait commencer à déchanter. Chéron, en effet, reconnut formellement Dubosc et jura même, avec un accent de sincérité indéniable, qu'il l'avait vu plusieurs fois chez son patron en compagnie de Vidal, Courriol et Roussy, et qu'il était venu avec eux, le matin du crime, prendre chez Bernard les chevaux avec lesquels il s'était rendu sur le lieu de l'assassinat. Furieux, hors de lui, Dubosc interpellait le témoin en ces termes. « Tu oses dire que tu m'as vu chez Bernard ?» Et le foudroyant d'un regard terrible, il martela. « Non, mais regarde-moi bien avant de dire une menterie pareille. Tu as peut-être seulement déjà reconnu le Zurk, comme moi. » « Non, c'est lui, c'est bien lui. » continuait à affirmer énergiquement Chéron. Pourquoi ? Poursuivait Dubosc avec violence. Oui, pourquoi, après plusieurs années, quand tous ces gens sont morts, faire une déclaration qu'ils pouvaient et qu'ils devaient faire dans le temps, si toutefois les choses étaient comme il le prétend ? Et puis, quelle foi ajouter aux paroles de ce domestique de Bernard qui, pendant tout le cours du procès de son maître, l'a servi dans sa prison jusqu'à la fin ? Et qui, au bout de 4 ans, veut venir démontrer que l'on a commis une erreur à l'égard de le Zurk et se contredit lui-même. Mais Daubenton l'a placé gardien au temple.
Veuillez parler plus respectueusement d'un magistrat, faisait observer le président.
Tout en ricanant, Dubosc ripostait.
La Révolution a supprimé les formules de politesse. Et je ne sache pas que le premier consul les ait jusqu'ici rétablis.
Oui, ce particulier ment. » Mais le président Chollet allait porter un coup aussi habile que dangereux à l'accusé. Tout en continuant à garder un sang-froid absolu, il reprenait.
« Dubosc, si vous aviez la conscience si tranquille, pourquoi, avez-vous cherché à corrompre, avec de l'argent, Durochat, pendant qu'il se trouvait en même temps que vous à la prison de Melun ? » S'enferrant malgré lui, Dubosc protestait.
« Je ne connais point Durochat, et malgré toute la pression exercée sur lui, il n'a jamais pu me reconnaître.
Sachez que la justice n'emploie pas vos moyens, et que Durochat, pris de remords, a lui-même indiqué pourquoi il ne vous avait pas reconnu.
« Pris de remords ?»
Le président faisait appeler le témoin Charrier, guichetier chef de Melun, qui confirmait qu'il avait surpris des révélations les plus suspectes entre Dubosc et Durochat. Les détenus Fontaine, l'armurier, et Berthollet s'en vinrent confirmer la déposition du citoyen Charrier.
« Ben, s'écria Dubosc, si maintenant on fait venir comme témoin toute la prison de Melun, je n'ai plus rien à dire.
Non, ça fait pitié, quand on pense qu'on aurait pu acheter ça pour quelques deniers. » Mais les témoignages allaient se succéder, accablants pour le misérable. On entendit le condamné Richard, qui, extirpé du bagne, comparaissait à l'audience entre deux gendarmes et dans son costume de forçat. Il déclara qu'invité par Courriol, le 13 Floréal, en 4, à dîner au restaurant du Cadran Bleu, il s'y était rencontré avec les nommés Roussy, Vidal et un particulier qui disait se nommer Laborde, c'est-à-dire Durochat. « Ayant eu besoin de sortir un instant, dit-il, en rentrant, j'entendis tous ces gens qui se disputaient à l'occasion d'un partage qu'ils prétendaient ne pas être égal et qui avait été fait chez Dubosc. Enfin, après notre condamnation à la prison de Bicêtre, Courriol me dit qu'il était l'auteur, ainsi que Dubosc, de l'assassinat du postillon qui conduisait la Malle de Lyon, que Roussy et Vidal s'étaient jetés sur le courrier, tandis que Laborde lui perçait le corps avec un grand couteau, et que ce dernier faillit être la victime de Roussy et de Vidal parce qu'il le prenait pour le courrier en entrant dans la voiture. » Désignant l'accusé au témoin, le président interroge. « Celui qui est là, vous le reconnaissez ?»«
Oui, citoyen. »« Si c'était la vérité, » s'exclama Dubosc, « pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt, à Paris, au tribunal, quand il y a passé avec Courriol ?»
Peu soucieux d'engager un nouveau dialogue avec un accusé aussi récalcitrant, le citoyen Chollet reprenait. « Faites entrer la fille Brébant. »«
La fille Brébant ?»
bondit Dubosc.
« Celle-là, je la récuse. » On l'a relâché peu de temps après le procès Courriol et Lesurque. Un peu plus tard, on l'arrêtait de nouveau à Dijon. On l'atteint depuis une dizaine de jours au secret pour lui faire apprendre par cœur ce qu'elle devait dire. La preuve, c'est qu'aussitôt sa déposition faite, les gendarmes l'ont laissé retourner à Paris, où elle s'est rendue avec Daubenton.
Le président interrompait. « Je vous ai dit de parler plus respectueusement d'un magistrat. »
« D'un ci-devant, magistrat !» rectifiait Dubosc. « Silence ! Laissez-moi parler !»
Et, déchaîné, le misérable se mit à hurler.
« Daubenton a fait monter la fille Brébant dans son cabinet. Tous les gendarmes de Melun, s'ils ne sont pas des lâches, pourraient attester qu'ils ont dû plusieurs fois la délasser parce qu'elle suffoquait par la boisson qu'on lui faisait prendre. Car on l'a saoulée. Et on mettait à côté d'elle, sur la table du greffier, un grand vase de liqueur pour l'entretenir dans cet état. »
Cette fois, le président se fâchait pour tout de bon, et, après avoir non sans peine fait taire le gredin, il donnait la parole à la fille Brébant, qui, entre-temps, était devenue la femme de Nicolas Ferré, exécuteur des hautes œuvres, c'est-à-dire bourreau du département de la Côte d'Or. Au milieu d'un silence attentif, coupé seulement par les exclamations ironiques et les protestations furieuses de l'accusé, la fille Brébant, ou plutôt la citoyenne Ferré, renouvelait toutes les déclarations qu'elle avait faites précédemment, tant devant le président Goyer qu'au cours des enquêtes ouvertes par Daubenton et poursuivies par le directeur du jury de Melun, c'est-à-dire que le particulier assis au banc des accusés était bien le Dubosc en question. Ensuite, le citoyen Gaume,
marchand de mode à Paris, 30 et 32 rue Croix des Petits Champs, s'en vint déclarer que, dans la détenue assise à côté de Dubosc, il reconnaissait la femme qui, sous le nom d'Anne Claire Barrière, était venue habiter dans sa maison en l'an 3 avec une autre femme qu'elle disait être sa mère, qu'elle avait reçu chez elle, à plusieurs reprises, le sieur Dubosc, ici présent, qu'elle disait être, non son mari, mais son beau-frère, qu'immédiatement après, le 8 Floréal, date du crime, elle avait disparu tout à coup et qu'à partir de ce jour, Dubosc n'avait pas reparu non plus dans la maison. Enfin, le jeune Tiercelin, âgé de 13 ans, et fils de la portière de la rue Croix des Petits Champs, déposa qu'il y avait dans la maison une femme qu'on appelait Madame Barrière, qui était grande et grêlée de la petite vérole, et que c'était la même que celle qui était là entre deux gendarmes. Il ajouta que souvent, et même dans les jours, il venait la voir un citoyen qui s'appelait Monsieur Dubosc, et que c'était cet autre qui était également là, à côté d'elle. L'audience fut levée au milieu d'un grand brouhaha, car ces témoignages contradictoires, cette atmosphère de crime, de vol, de prison, de vice, de prostitution, et sans doute de mensonge, avait jeté le trouble dans tous les esprits. Les partisans de Lesurc le sentaient fort bien. Certes, de très lourdes charges pesaient sur la tête de Dubosc, mais la lumière n'était pas encore faite. Somme toute, les témoignages qui plaidaient en faveur de Lesurc ne parvenaient pas, de la part de criminels, de condamnés ou de gens sinon suspects, mais aussi accessibles à l'intérêt qu'à la pitié, tandis que les témoins de la première heure, c'est-à-dire ceux qui avaient déclaré reconnaître Lesurc et dont l'honorabilité ne pouvait être sujette à caution, persistaient dans leur déclaration première. Aussi, lorsque, à midi et demi, l'audience fut reprise, l'agitation dans le public était-elle à son comble. Et bien que les jurés fissent tous leurs efforts pour garder un visage impénétrable, on pouvait cependant lire dans leurs yeux le doute qui subsistait encore dans leurs esprits. Le président Chollet, désireux de ne laisser subsister aucune équivoque, avait décidé de se livrer à une expérience qui, selon lui, devait contribuer puissamment à éclairer le mystère. Mais, auparavant, il posait de nouveau quelques questions à Dubosc qui semblaient quelque peu assagies. « Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous aviez chez vous tant de clés et tout un attirail qui semblait destiné à fracturer les serrures et à ouvrir les portes ?» Dubosc répondait sans sourciller. « J'avais l'intention de passer en Angleterre, pour y faire incendier et sauter tout ce que je pourrais, en revanche de tout le mal que les Anglais font à la France. Voilà pourquoi j'avais imaginé à cet effet cette sorte de clé qui se démonte et grâce à laquelle j'aurais pu m'introduire dans les magasins de poudre, dans les arsenaux et les chantiers de nos ennemis. » « Ah, vraiment ?» ponctuait le président d'un air incrédule, tandis que quelques rires ironiques éclataient dans la salle. Dubosc, d'une voix forte, s'écriait « Je suis la victime d'une maudite cabale qui, depuis la mort de Lesurc, s'est liguée contre moi !» Le citoyen Chollet se hâtait d'intervenir. « Tout ceci est d'ailleurs très secondaire. » Et après avoir pris un temps, d'une voix grave, il ajouta « Maintenant, nous allons exécuter le jugement que le tribunal a rendu le 5 novembre an 6, qui vous a été signifié le 13 primaire dernier, et par lequel il a été ordonné que tout portrait ou buste de Lesurc serait apporté à cette audience pour vous servir de pièce de comparaison et de conviction, et que, d'autre part, une perruque blonde à votre mesure et à l'usage de votre tête serait confectionnée sur la vue du buste par Saint-Martin, perruquier à Versailles, rue du Commerce. La veuve Lesurc, ayant remis à l'huissier un buste de terre crue et un portrait miniature de Lesurc en forme de médaillon, la perruque a pu être dressée et un tableau peint d'après le médaillon. au milieu de l'attention de tous les assistants qui, tout de suite, avaient compris que cette expérience devait être décisive, le citoyen Juillard, coiffeur à Versailles, était introduit dans la salle et, sur l'ordre du président, posait la perruque sur la tête de Dubosc. Mais l'artiste capillaire, ayant fait observer que les favoris naturels de Dubosc étaient plus longs que ceux de la perruque, le président ordonna au citoyen Juillard, en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui conférait la loi, de couper les cheveux de Dubosc à la hauteur des favoris artificiels, ce qui fut fait aussitôt. Lorsque l'opération fut terminée, le président fit passer le portrait de Lesurque sous les yeux de chaque juré. La ressemblance était frappante. Il n'y avait plus de doute possible. Cette fois, la vérité éclatait. Cependant, les témoins de Montgeron et de Lieusaint, les femmes Évrard, Grosse-Tête, Sauton, Châtelain, les citoyens Perrault, Labarre, Gilet, Champeau et sa femme, rappelés tour à tour et mis en présence de Dubosc coiffé de la perruque blonde et en face du tableau, ainsi que de la miniature représentant le portrait de Lesurque, tout en admettant qu'il exista dans l'ensemble des deux individus quelques rapports généraux, affirmèrent avec la même unanimité qu'ils ne trouvaient aucune ressemblance qui pût les induire à penser qu'ils avaient commis une erreur. Alors, un incident sensationnel allait se produire. Appelée la dernière, la femme Alfroy, visiblement très émue après avoir regardé le portrait de Lesurque et la miniature, hésitait à porter ses yeux sur Dubosc. « Remettez-vous, témoin. Nous ne vous demandons que la vérité. Il n'est jamais difficile et pénible de la dire. » De plus en plus troublée, la femme Alfroy gardait le silence. Le président s'écriait. « Enfin, oui ou non, reconnaissez-vous Dubosc ?» Lentement, en tremblant, la citoyenne Alfroy dirigea ses yeux vers l'accusé. Le public, haletant, attendait qu'elle parlât. Après un assez long silence, elle se décidait à dire « Devant le tribunal de la Seine, j'ai reconnu Lesurque, mais ma conscience me fait un devoir de déclarer que je me suis trompée. Je crois fermement que je n'ai pas vu Lesurque. Mais Dubosc, là, présent, oh oui, je le reconnais bien. » Au milieu de l'émotion générale, le président demandait. Depuis le commencement de ces débats, et avant que la perruque blonde qui est actuellement sur la tête de Dubosc y fût posée, avez-vous reconnu Dubosc?
Oui.
Pourquoi n'avez-vous pas fait cette déclaration lorsque vous avez été entendu à l'audience d'hier?
Je n'ai pas osé.
Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer, témoin, la gravité de la déclaration que vous venez de faire. Vous en comprenez toute l'importance. Réfléchissez sur toutes les conséquences irréparables qu'elle peut avoir. Sondez votre conscience. Le moment est grave. Alors, la citoyenne Alfroy parut se recueillir. Puis, dans un tragique silence, d'une voix qui s'était affermie, elle déclarait « Je persiste dans ma dernière déclaration. » Transporté de fureur, Dubosc s'écriait
« Elle ment! Cette femme ment! Sait-on qui l'a approchée depuis la dernière audience? Elle n'a point quitté Versailles hier soir, et les amis de Lesurque rôdent par la ville pour voler la vérité. Si elle ne ment pas, tous les gens auraient menti. Et pourquoi? Je suis prisonnier. Ils n'ont donc pas peur de moi. Pourquoi mentirait-il? Ah, cette femme ment! Je la hais! »
Le président se hâtait de lever l'audience dans un tumulte indescriptible. Cette fois, l'opinion publique se retournait contre Dubosc. Justice, enfin, allait être rendue. Le lendemain, après un réquisitoire très serré et très éloquent, où le commissaire du gouvernement réclama pour Dubosc la peine capitale
et un châtiment sévère pour la fille Barrière qui, au cours de ses 4 audiences, avait presque entièrement disparu, écrasée par l'effroyable personnalité de son amant, le président donnait la parole au citoyen Lebon, défenseur de Dubosc. Avec habileté, chaleur, il s'efforça de couvrir son client par la condamnation qui avait été prononcée pour le Zurk. « Citoyen juré, disait-il, viendrez-vous discuter l'indiscutable verdict d'un jury ? Ce verdict, aujourd'hui, fait foi et doit être hors d'atteinte. Tout s'est passé dans la conscience et la conviction des jurés. Vous ne pouvez frapper 2 fois pour le même crime. Or, il est certain, les témoignages le prouvent, que parmi les 4 individus vus à Montgeron et à Lieu-Saint le 8 Floréal, un seul avait les cheveux blonds. Un seul avait demandé de la ficelle pour raccommoder la chaînette de son éperon. Eh bien, cet individu blond qui a demandé de la ficelle, qui plus tard a été vu se promenant avec Vidal à Lieu-Saint, c'est Le Zurk. Le Zurk a été condamné. Sa condamnation a acquis force de choses jugées. Elle serait inconciliable avec une condamnation nouvelle. Et il ajoutait, il est impossible d'accorder une confiance au dire d'un témoin aussi versatile que la femme Alfroy, d'un témoin qui avait été capable pendant si longtemps de masquer la vérité, en admettant même que sa dernière déclaration fût sincère et spontanée, ce qui était moins que certain. Combien plus dignes de foi étaient ceux qui, dès le premier jour jusqu'au dernier, n'avaient jamais varié dans leur déposition. Enfin, il s'écriait, « Je n'insisterai pas sur le rôle étrange joué par le citoyen Daubenton, et je laisse à d'autres le soin d'expliquer et de justifier son dévouement insolite à la mémoire de l'homme qu'il a tant contribué à envoyer à l'échafaud. En choisissant un malheureux que son passé désignait à la sévérité de ses juges, M. Daubenton a peut-être fait preuve d'adresse, mais je doute fort qu'il ait fait preuve de loyauté. Citoyen juré, je m'en rapporte à votre conscience, à votre justice, à votre honneur. » Suivant la procédure de cette époque, le président Chollet fit alors le résumé des débats, et, tout en s'éloignant de la partialité dont avait usé le président Goyer en d'autres circonstances, il sut néanmoins, avec beaucoup d'adresse, mettre en lumière tous les arguments capables d'établir la culpabilité de Dubosc et l'innocence de Le Zurk. Si bien que, lorsque les jurés se retirèrent dans la chambre des délibérations, la condamnation de Dubosc semblait alors à tous assurée et la réhabilitation de Le Zurk non moins certaine. À 5h15 de l'après-midi, le citoyen de la cour, chef du jury, lisait à haute voix ce singulier verdict. La déclaration unanime du jury est que Jean-Guillaume Dubosc n'est point convaincu d'être l'auteur de l'homicide du courrier, ni du postillon de la Malle de Lyon, ni du vol qui a suivi, mais seulement d'avoir aidé et assisté volontairement et avec préméditation les auteurs de cet homicide et de cette soustraction. La fille Barrière était seulement convaincue d'avoir recelé les objets soustraits et dans une intention criminelle. En conséquence, le tribunal, après une courte délibération, condamnait Dubosc à la peine de mort et Claudine Barrière à 24 ans de réclusion. Dubosc ne s'étant pas pourvu en cassation, il fut exécuté à Versailles le 5 Nivose, 25 décembre. Emportant avec lui son secret dans la tombe. Ce jugement rendait impossible la réhabilitation légale de Le Zurk. En effet, il laissait intact le nombre généralement admis de 4 cavaliers, c'est-à-dire de 4 assassins. La famille et les amis de Le Zurk allaient-ils renoncer à poursuivre la révision du procès de celui qu'ils considéraient toujours comme un innocent? Non, nullement. Mais, ainsi que nous allons le voir, ils n'étaient pas au bout de leur peine.